Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, à la radio ou en podcast. Mes deux invités ce matin sont Anastasia Mikova, journaliste et co-réalisatrice avec Yann Arthus-Bertrand du film Woman, qui sort aujourd'hui au cinéma, un documentaire qui donne la parole aux femmes du monde entier, des femmes de générations différentes qui évoquent face caméra leur enfance, la découverte de leur sexualité, les inégalités dont elles sont victimes. Et également présente avec nous la réalisatrice égyptienne Marianne Khouli, qui dans son dernier film, Let's Talk, revient sur l'histoire de sa mère, qu'elle tente d'analyser pour pouvoir la raconter à sa fille. Enquête familiale pour cerner ce que les femmes transmettent de génération en génération. Et c'est aussi un film sur le poids des traditions et le prix à payer quand on veut s'en émanciper. Let's Talk et Woman, deux films où les femmes prennent la parole pour questionner leur place dans les sociétés d'aujourd'hui. Deux films à voir.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
I love being a woman. I've always loved being a woman. And I was a pretty little girl.
I'm a happy, strong, crazy woman.
Mina shona kabisa niko mwanamke. Na mimi naona kabisa mimi naistahili kwa ile hali yangu ya kianamke. Nasikia bien.
Mi-ar trebui o zi întreagă ca să vă spun jumătate din calitățile pe care le am.
Bonjour Anastasia Mikova.
Bonjour.
On vient d'entendre un extrait de votre film, ce film que vous co-réalisez avec Yann Arthus-Bertrand qui sort aujourd'hui, Woman. L'idée était de donner la parole aux femmes sans les questionner, les laisser parler sur des thèmes que vous avez choisis, c'est-à-dire leur place dans la société, mais depuis leur enfance, la découverte de leur sexualité, leur place dans une famille, leur place dans une société, leur place dans le monde du travail. D'où vient cette idée? Je suppose que c'est après le tsunami MeToo que vous avez peut-être eu envie de... Ah, vous me dites non.
Bien avant.
Alors, ouais, très bien. Alors, bien avant.
En réalité, c'est notre précédent film Human, sur lequel on travaillait déjà avec Yann Arthus-Bertrand et pour lequel, pour le coup, on avait interviewé des hommes, des femmes, des enfants dans le monde entier, qu'on a eu l'idée de se concentrer sur la parole féminine. Et je vais vous expliquer pourquoi. Moi, j'avais fait beaucoup d'interviews de ce film-là déjà à l'époque. Il y avait quelque chose qui m'avait frappé sur le terrain. Quand on arrivait dans un pays et dans des endroits où il y a 15 ans, pour le coup, ça fait longtemps que je fais ce métier, c'était impossible de trouver une femme prête à parler devant la caméra à visage découvert. En plus, on a une façon de filmer qui est vraiment très proche. On ne filme que le visage. Donc, tu peux pas te douter que c'est vraiment la personne. Tu peux pas, voilà, te tromper. Eh bien, c'était impossible dans beaucoup de pays. Et là, d'un coup, il y avait des femmes qui venaient à nous. Alors, elles étaient pas des milliers, mais il y avait des femmes qui venaient à nous et qui disaient, je veux partager mon histoire. Je veux raconter ce que je suis en train de vivre. Et là, en rentrant de ces tournages, moi, j'en ai parlé avec Yann. Je lui ai dit, écoute, quelque chose est en train de se passer. Les femmes ont envie de prendre la parole. C'est même devenu un besoin. Donc je pense qu'il faut qu'on crée une fenêtre et qu'on leur offre cette possibilité. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Et justement, vous parliez de MeToo, c'était presque 2 ans avant MeToo, avant l'affaire Weinstein et toutes ces affaires dont on parle dans les médias quasi quotidiennement maintenant. Et c'est pas pour dire qu'on était là avant, c'est pour dire que c'était déjà là avant. En fait, les femmes, elles étaient déjà prêtes. Il fallait juste des oreilles qui les écoutent.
C'est ce que vous nous proposez, parce que c'est un film de cinéma. On voit les visages des femmes, et ce qui est fort, c'est la parole. La parole est au centre de ce dispositif, et on n'entend pas les questions en réalité. On a l'impression que ces femmes viennent se confier à nous.
C'est exactement ça. D'ailleurs, la façon dont on travaille est beaucoup plus proche d'une psychanalyse que d'une interview classique. Et ce sont des entretiens. Alors, la façon dont c'est construit, ce sont des petits extraits de chaque entretien qui construisent ensemble une grande histoire de qu'est-ce qu'être une femme dans le monde aujourd'hui. Mais en réalité, chaque extrait vient d'un entretien qui dure entre 2 et 3 heures. Donc la clé dans tout ce qu'on fait, c'est le temps. Parce que justement, quand tu veux aller sur des sujets aussi intimes, quand tu veux aborder des choses aussi personnelles, la plupart de ces femmes n'en ont jamais parlé, parfois même avec personne de leur vie, de leur entourage. Et là, elles se racontent pour la première fois, tout ça demande beaucoup de temps. Et on ne voulait surtout pas être là et prendre une place, nous, trop importante. On voulait que leur parole soit au centre. Et d'ailleurs, on a fait le choix de ne donner aucune info sur toutes ces femmes. Donc la présidente de l'Union revenus est également exactement au même niveau qu'une femme qui fait le ménage ou une femme qui conduit un bus, etc.
Il y a des ministres, il y a des députés, mais il y a effectivement des paysannes. Il y a toutes les catégories sociales. C'est vrai que c'est au fur et à mesure qu'elles parlent, ces femmes, qu'on essaye de deviner d'où elles viennent, parce qu'il y a tous les pays. Mais quelles sont les questions que vous avez préparées? Parce que là, on a quelques thèmes qui sont abordés.
C'était très intéressant parce que justement, nous, avec Yann, pendant la première année, la production a duré presque 4 ans. Donc, c'est pour vous donner une idée, voilà, pour faire un film. C'est très long pour un film documentaire. Et la première année, on s'est beaucoup posé la question des thèmes, des choses à aborder. Et puis, moi, j'ai fait beaucoup d'entretiens, moi, toute seule, pour voir ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Et après, la deuxième année, on a eu 5 journalistes qui ont travaillé avec nous et qui sont aussi partis chacune parler une langue différente, l'arabe, le russe, l'espagnol, etc. Et donc, a fait aussi une partie des entretiens. Et ce qui était intéressant, c'est que donc nous, on avait des idées sur ce qu'on avait envie de raconter. Et après, les femmes nous ont aussi fait comprendre ce qui était véritablement important. Et on a réadapté, je ne sais pas si on peut appeler ça le scénario, mais en tout cas, on a réadapté les questions et l'histoire en fonction de ce qu'on entendait sur le terrain. Et d'ailleurs, c'était très intéressant parce qu'en voyant votre film, ça m'a beaucoup fait penser aux choses qu'on a entendues.
C'est Marielle Rolli qui t'avait dit.
Sur la mer, c'était incroyable ce qu'on a entendu sur la mer. Et vraiment, pour vous dire la vérité, moi je savais quand même que la place de la mer, c'était important dans la vie des femmes. Mais je ne soupçonnais pas à quel point c'était fondamental. On posait la même question sur le père et la mère. Et une fois sur deux, en parlant du père, les femmes revenaient à la mère. Bon, mon père, oui, mais ma mère, c'était incroyable.
Et comment vous l'expliquez, donc, du coup?
Et d'ailleurs,
Anastasia Amikova.
Plus ou moins 2 cas. C'était que soit c'était une figure absolument, mais plus qu'importante, vraiment centrale, où il fallait
reproduire.
Pour ne pas
dire étouffante, ouais.
En tout cas, qui était le modèle suprême qu'il fallait, auquel il fallait ressembler, etc., et qu'on admirait sans limite, soit c'était « je ne veux surtout pas être comme elle, je ne veux pas reproduire son schéma, je ne veux pas revivre la même chose ».
Donc on a compris, Woman, à la différence fondamentale entre vos deux films, Anastasia Amikova et Marielle Rolli, c'est que vous allez à la rencontre de femmes du monde entier, quand Marielle Rolli a décidé de questionner les femmes de sa propre famille, et de sa place dans sa propre famille. Dans le dossier de presse qui accompagne Woman, Anastasia Amikova, dans ce film que vous co-réalisez avec Yann Arthus Bertrand, vous dites que vous avez interviewé près de 2000 femmes issues de 50 pays.
Oui, c'est assez incroyable.
L'idée, c'était de faire quoi? Quelque chose de représentatif, ou vous êtes plutôt dans l'inventaire?
C'était plutôt d'essayer de se dire, y a-t-il quelque chose d'universel qui nous unit au-delà des cultures, au-delà de toutes ces barrières qui peuvent nous séparer?
Et au-delà des développements économiques aussi.
Exactement. Au-delà de tout ça, y a-t-il quelque chose qui quand même crée un lien entre nous? Et moi, je peux témoigner à mon échelle personnelle, en étant sur le terrain dans les pays, mais et devant des femmes qui avaient absolument rien à voir avec moi et ma vie, je me sentais totalement connectée à elle. Et c'était absolument dingue. Voilà, j'étais face à une femme au Bangladesh qui avait vécu des choses, mais rien à voir avec mon parcours. Et pourtant, je ressentais les mêmes émotions. Et je riais aux choses qui la faisaient rire. Et je pleurais avec elle. Enfin, voilà, il y avait un lien invisible. Quand on parle de sororité, c'est peut-être le mot qui se rapproche le plus, s'il y a un mot qui peut définir ça, parce que c'est beaucoup plus en termes d'émotions et de sensations que ça se passe. Et du coup, c'est ce pourquoi on a appelé le film Woman. Mais le A dans le titre devient le E. Parce que finalement, pour nous, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a ressenti et vécu. C'était comme si, à travers tous ces témoignages, des milliers de témoignages, il y avait toutes ces femmes singulières, mais en même temps, il y avait la femme, et il y avait quelque chose qui dessinait autour de la femme.
Et êtes-vous allée dans votre pays d'origine, Anastasia Amikova? Vous êtes française, vous vivez en France depuis une 20aine d'années, mais vous êtes d'origine ukrainienne. Êtes-vous revenue sur les terres de votre enfance, ou vous avez évité justement d'y retourner pour ce film?
Alors, on l'avait fait pour Human, ouais. Et donc, pour le coup, là, on s'est dit, ok, c'est bien aussi de changer, et on a été juste à côté en Biélorussie, et on a aussi été en Russie, mais pas en Ukraine cette fois-ci.
Alors, quel extrait prendre de Woman? Parce que c'est un film de la parole des femmes. Donc, on a dit la sexualité, l'enfance, mais aussi les violences faites aux femmes. On va écouter peut-être un extrait sur les femmes dans le monde du travail.
Mon premier congé maternité, je l'ai vécu dans une exaltation et une candeur totale. Je ne me préoccupais absolument pas de l'effet que ça pouvait avoir sur ma vie professionnelle. J'étais un super bon élément, ça allait très très bien. Pourquoi est-ce que je me serais inquiétée? C'est au retour de mon premier congé maternité que je suis tombée de l'armoire, parce qu'un de mes patrons m'a dit très clairement « Tu es effectivement un bon élément, mais tu ne te rends pas compte à quel point ce bébé va changer ta vie. Tu vas voir. » Donc il m'annonçait déjà quelque chose que je n'étais pas en train de vivre. « Et on aimerait bien pouvoir compter sur toi, mais il va falloir nous donner des preuves. » Et là, au lieu d'être brave, j'ai été paralysée. Mais paralysée, abasourdie, je ne savais absolument plus quoi dire. Et silencieusement, je me disais, c'est donc comme ça qu'elles savent que c'est fini. Ce qui m'a donné le ressort pour rebondir, c'est un de mes collègues qui a vu que j'étais blême, à qui je suis allée me confier en sortant de cet entretien. Et c'est lui qui a été choqué, pas moi. Moi, j'étais paralysée, mais lui, il a été choqué. Et lui, il me l'a dit. Et lui m'a dit, mais c'est n'importe quoi, c'est révoltant. Donc c'est cet homme-là, c'est ce collègue-là qui m'a donné, finalement, qui m'a remise dans la colère, en fait. Et dans le « c'est pas juste ». Mais sinon, moi, j'avais reçu mon verdict.
J'étais à Casablanca, une grande ville quand même de 3,5 millions d'habitants. Et j'ai décidé de me présenter aux élections législatives. Mais il y avait des scènes extraordinaires, parce que quand je me présentais dans un quartier populaire, les gens me regardaient avec des yeux abasourdis et couraient « Viens voir, viens voir !»« C'est une femme, elle est candidate, viens voir !» C'est-à-dire, c'était vraiment casser un tabou. Mais la suite de l'histoire, c'est que j'ai continué à me présenter. Je n'ai pas été élue, bien sûr, parce qu'il y avait zéro femme au Parlement. Mais après, je me suis présentée aux troisièmes élections, aux quatrièmes élections, aux cinquièmes élections, sixième. Et ce n'est au bout de la septième, en 1997, donc 21 ans après, que j'ai pu être élue municipale parmi 0,34% de femmes dans les conseils municipaux. Eh bien, il fallait être têtu, et je le suis.
Quand j'ai été nommée ministre, pour la plupart des fois, des réunions où se prennent des grandes décisions se tiennent la nuit. Et en tant que mère de famille, en tant que femme mariée, c'est compliqué pour que la femme arrive jusqu'à plus tard la nuit pour siéger et donner sa contribution dans la gestion du pays. Mais moi, je me suis dit, je veux prouver à tout le monde, d'abord aux femmes, une façon de les encourager à dire que ce n'est pas du miracle. Nous, femmes, nous pouvons. Aux côtés des hommes, nous pouvons. Ou peut-être les hommes aux côtés de la femme, nous pouvons, nous tous.
Voilà un extrait de Woman d'Anastasia Mikova et de Yann Arthus Bertrand qui sort aujourd'hui au cinéma. Vous vous êtes posé la question, qu'est-ce qu'une femme aujourd'hui, puisque vous avez décidé de non pas d'interviewer des femmes mères ou pas mères, vous introduisez y compris le transgenre. C'était quoi? Vous vous êtes posé cette question de qu'est-ce qu'une femme aujourd'hui?
C'est précisément la question qu'on s'est posée, oui, en faisant ces entretiens. Et je pense qu'il n'y a pas une réponse unique. Je pense que c'est l'ensemble de toutes ces histoires et l'ensemble de toutes ces femmes qui, quelque part, nous donnent une idée de ce que pourrait être la réponse. Donc, je ne pense pas qu'on puisse le résumer en une ou deux phrases. Mais c'est quelque chose, une fois, en tout cas, c'est très intéressant. On a fait beaucoup d'avant-premières avant de sortir le film en salle. Et c'est incroyable de voir les réactions des femmes dans la salle à chaque fois. Elles se lèvent souvent et elles ont envie de témoigner en disant « Mais je me sens fière d'être une femme et je me sens femme en écoutant toutes ces autres femmes. »
Même si on n'est pas né avec le sexe féminin.
Mais oui, parce que je trouve ça magnifique, absolument magnifique ce qu'elle dit, cette femme transgenre. Elle dit, voilà, pour beaucoup de femmes, c'est quelque chose qui est inné. Moi, c'est un cadeau que je me suis offert moi-même. Je trouve ça absolument magnifique. Il y a tellement de femmes qui trouvent que c'est une malédiction, encore aujourd'hui, vu le nombre de difficultés qu'on traverse dans pas mal de pays, d'être une femme, qu'une femme puisse dire, je le suis devenue, c'est un cadeau que je me suis offert. Je trouvais ça absolument super.
Vous avez pu tourner dans tous les pays que vous avez choisi, Anastasia Mikova?
Alors, justement, c'était très important pour nous d'être transparent et de faire ça de façon très ouverte, parce qu'on voulait surtout pas que ça crée des problèmes pour toutes ces femmes par la suite. On voulait que ce film célèbre les femmes et que ça soit dans tout le processus et jusqu'à la fin une célébration des femmes. Donc il y a des pays, on a toujours demandé les autorisations, aucun pays ne nous a dit non. D'ailleurs l'Égypte nous a jamais dit non, par exemple, pour donner. D'ailleurs on voit bien dans le pays, il y a une partie du monde qui est un peu sous-représentée.
Ouais.
Et voilà, Oman, Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, on a toujours demandé. Ils nous ont toujours dit un papier en plus, quelque chose en plus. Et c'est jamais venu. Donc au bout d'un moment, on comprenait que ça viendrait pas. Et on s'est dit, ok, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore prêts, qu'ils sont pas mûrs, et qu'on va potentiellement exposer les femmes à des conséquences ou à des problèmes par la suite. Donc on ne veut pas être là-dedans. Du coup, on l'a pas fait. Et d'ailleurs, il y a certaines femmes de ces pays qu'on a interviewées à l'étranger, des femmes pourtant qui sont des femmes indépendantes, qui ont plutôt des postes importants, et toutes sont revenues sur leur témoignage par la suite en disant, non, finalement, je ne veux pas que ça soit utilisé.
Anastasia Mikova, co-réalisatrice du film Woman.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
يا راوي احكي حكاية ماذا بيك تكون رواية احكي لي على ناس زمان احكي لي على الف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ناجيتك كل واحد منا في قلبه حكاية.
Marianne Joly, Anastasia Mikova disait que le monde arabe était sous-représenté, même s'il faut préciser que les femmes n'étaient pas du tout représentatives de leur pays. Hein, elles parlaient plutôt d'elles-mêmes. Dans votre film Let's Talk, est-ce qu'on est en Égypte? Est-ce qu'on est dans un autre monde, un monde disparu, c'est-à-dire le Levant? Parce que votre famille est une famille qui a vécu entre le Liban et l'Égypte. Famille chrétienne, vous avez décidé aussi de questionner le rapport que vous avez avec les femmes de votre famille, et à commencer par votre mère. Une manière aussi d'établir le dialogue avec votre fille. Donc votre documentaire, c'est vraiment une enquête familiale, même si le rôle de la femme est primordial. D'abord, pourquoi vous avez voulu faire ce film?
Alors, il y a plusieurs questions là, mais je vais essayer. Moi, je pense que je faisais ce film sans me rendre compte, depuis que j'ai commencé à vouloir faire du cinéma, en fait. Mais je me cachais toujours derrière des autres, derrière des femmes qui m'intéressaient, que je trouvais intéressantes.
C'est vrai que vous êtes l'auteur d'un très beau film sur les pionnières du cinéma égyptien.
Oui, ça, c'était mon deuxième film. Donc, c'était les pionnières du cinéma égyptien. Ensuite, j'étais dans un hôpital psychiatrique où j'ai fait Zelal, ça veut dire les ombres, où aussi je me cachais derrière les patients. Et je tournais en rond, je ne savais pas ce que je voulais faire exactement. J'avais toutes les archives de la famille, c'est 100 ans d'archives, entre photos, cassettes, des films en 35 mm, des digitales. Donc j'ai tous les formats possibles et imaginables. Et je ne savais pas ce que je voulais faire exactement, jusqu'au jour où ma fille a commencé à me poser des questions et à me dire, en fait, moi je sens qu'elle n'avait jamais rencontré ma mère, comme ma mère est décédée bien avant qu'elle ne naisse. Mais elle se sent très connectée à ma mère. Et donc, elle m'a dit, moi, je ressemble beaucoup à ta mère, en fait. Je ne te ressemble pas à toi. Et c'est qui cette femme? Raconte-moi, c'est qui cette femme? Et donc, c'est elle qui m'a facilité ce travail pour parler de ma mère, en fait.
Je voulais parler de ma mère.
Et pour poser des questions, je voulais parler de ma mère, parce que ma mère m'intriguait, en fait. C'était un personnage assez...
Pour aller très vite, et je vais aller très vite, votre mère, elle n'était pas émancipée, et pourtant on va voir cette femme qui est très jolie, qui aurait pu avoir une carrière au cinéma, qui est très entourée, qui est très forte au poker, parce qu'il y a tous ces documents que vous montrez dans votre film, Marianne Joly, et ben cette femme, elle va se sacrifier d'abord pour son petit frère, un certain Youssef Chahine. La famille n'a pas beaucoup d'argent, et quand il s'agit de faire un choix, est-ce qu'on envoie le garçon faire ses études aux États-Unis pour devenir cinéaste, ou est-ce que on marie la fille qui avait elle aussi une envie de s'émanciper? Non seulement on choisit le garçon, mais avec la bénédiction de la sœur, avec la bénédiction de votre mère. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans votre enquête familiale, il y a une question qui revient et qui vous taraude. Elle m'a aussi donné vie, et en me donnant vie, elle a laissé de côté d'autres rêves. Même si cette question que vous posez à votre fille, et des fois cette question devient...
Elle pèse.
Oui, elle est pesante, c'est même l'élément dramaturgique. Parce qu'à un certain moment, vous dites, est-ce qu'il faut vraiment tuer une personne pour que l'autre puisse vivre?
Ouais, enfin ma mère c'était, comme vous avez dit, une très, très belle femme qui aurait pu faire plein de choses. Mais je ne pense pas qu'elle se soit posée elle-même la question. Elle ne s'est pas posée la question, est-ce que je peux faire autre chose? Est-ce que j'ai envie de faire autre chose? Elle a vécu, Elle a eu des enfants, elle a eu une vie sociale très riche. Les deux étaient dans le cinéma, c'est ça le paradoxe, le frère et le mari. Mmh. Et donc, elle s'est même pas posé la question. Elle n'avait pas envie de jouer dans le cinéma, comme ma tante l'a dit d'ailleurs. Elle ne se rendait pas compte qu'elle pouvait être bonne actrice, malgré que c'était l'amie des très grandes divas égyptiennes à ce moment-là, parce que c'était les années d'or du cinéma égyptien. Et d'ailleurs, on disait que ma mère ressemble beaucoup à l'actrice italienne Anna Magnani, qui a des origines d'Alexandrie, apparemment. Donc, elle a cette gueule. Ma mère a cette gueule.
Mais la question que vous vous posez, parce qu'à un certain moment, vous vous dites, est-ce qu'elle a voulu de moi, cette femme? Est-ce qu'elle a été stoppée dans son émancipation, même si le mot n'était pas utilisé à l'époque, pour fonder une famille? Est-ce que vous avez eu une réponse à cette question?
Non, mais même si elle ne me voulait pas, je pense pas que ce soit ça la cause de mon malaise. C'est beaucoup plus compliqué dans le film parce que je fais une psychanalyse, en fait.
Ouais.
Donc, oui, je ne sais même pas si elle voulait des enfants. Elle en avait eu deux garçons. Elle disait toujours, si j'ai un troisième, je veux un garçon et non pas une fille. Et c'est pour ça que moi, j'ai grandi avec l'idée que c'était pas bien d'avoir une fille jusqu'au jour où j'ai eu une fille et j'ai découvert ce que c'était d'avoir une fille. C'est magnifique.
Ouais.
J'avais un garçon et puis je me suis dit, allez, un deuxième. Et même Youssef Chahine me l'avait dit, m'a dit, tu dois choisir, en fait. Ou bien tu vas faire des films, ou bien tu vas avoir une famille. Et tu dois choisir, tu peux pas faire les deux. Et moi, j'étais têtue. Et j'ai voulu faire les deux. Donc, c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps.
Anastasia Mikova, réaction? Qu'on vous entend?
Moi, j'ai toujours pas d'enfant. Et c'est une question que je me pose encore aujourd'hui. Et j'imagine que pour une femme cinéaste, franchement, c'est des questions qu'on se pose tout le temps.
Et toi, tu t'es bouleversée ou
pas? Oui. J'étais bouleversée, mais comme j'étais enceinte, J'ai pas laissé le bouleversement me
Un extrait de Let's Talk, le dernier film de Marianne Khoury. Là aussi, un film de parole, un film où les femmes parlent des femmes. Dans le cas du film de Marianne Khoury, qui sera projeté en avant-première française à Lima ce 10 mars, à l'occasion du 8 mars, je suppose. Et le film de Yann Arthus-Bertrand et de Anastasia Mikova, Woman, qui sort aujourd'hui. Les hommes qui vous entourent, les hommes qui vont venir témoigner, ou dans le film Woman, ils ont réagi comment à ces paroles de femmes?
C'est très intéressant d'ailleurs la réaction des hommes de façon générale. Ouais. Voilà, Yann, c'est un homme public, 74 ans, qui a une grande carrière, et très souvent, là pour le coup je peux le dire à sa place parce qu'il le dit, il l'assume entièrement, il le dit souvent, ce film l'a complètement changé et a transformé sa vision des femmes, et il s'est rendu compte à quel point les femmes de sa vie avaient été importantes et essentielles, et à quel point il avait sous-estimé leur rôle pendant toute son existence.
Et vous, vos frères?
Moi,
ils ont tout essayé pour que le film ne se fasse pas.
Ouais, c'est-à-dire que je pense qu'ils étaient très gênés. Gênés.
Mais parce qu'on parle de l'intime, on parle de la famille.
Parce qu'on parle de l'intime et parce que leur relation au cinéma n'est pas la même. D'ailleurs, j'ai filmé ça. J'ai voulu le filmer aussi. Mon frère aîné qui dit ça n'intéresse personne, ces histoires, c'est des choses intimes, mais je pense qu'il ne faut pas raconter ça au public. Mon autre frère qui pensait être confortable au début, et puis il a été gêné quand il a vu le film. Et d'ailleurs, on n'a pas encore eu cette discussion sur les effets du film. C'est-à-dire que je pense que ça va prendre du temps, mais c'est sûr que le film a été un déclencheur pour changer plein de choses. Donc il y a une gêne. Avec mon fils, c'est différent. Je pense que le film nous a beaucoup réconciliés et que ça a eu un effet positif sur lui parce qu'il a su beaucoup de choses qu'il ne savait pas d'ailleurs. Et donc je pense qu'il y a une conversation comme ça qui se passe entre nous sans vraiment la parole.
Et le succès inattendu de ce film en Égypte, comment il est perçu?
Ça c'est extraordinaire pour moi d'ailleurs parce que j'essaye d'aller autant que possible aux projections et d'avoir ce contact avec le public, parce que je réalise à quel point les gens s'identifient au film. En fait, au début, ils pensaient qu'ils allaient voir les scandales de la famille et je ne sais plus quoi, et puis qu'au bout d'un quart d'heure, ils ne voient plus rien de cette famille et ils se regardent à eux, ils se projettent eux-mêmes. Et ça, je l'ai senti avec beaucoup de gens, des gens d'âge différents, des filles de 20 ans, des femmes de 60 ans, même des hommes. Et donc, et ça me touche énormément.
Et puis pour les cinéphiles, ceux qui aiment le cinéma de Youssef Chahine, il y a autre chose dans ce film, c'est-à-dire qu'on voit comment votre oncle, disparu il y a maintenant plus de 10 ans, a su raconter cette histoire en passant par la fiction, parce qu'on a aussi bien les extraits des films autobiographiques de Youssef Chahine que les archives et les interviews que vous avez menées. Merci beaucoup Anastasia Mikova, merci beaucoup Marielle Rolly d'être passée ce matin.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Le film Woman de mon invité Anastasia Mikova, co-réalisé avec Ilian Arthus Bertrand, sort aujourd'hui au cinéma. Et le film de ma deuxième invitée, Marielle Rolly, Let's Talk, sera projeté en avant-première parisienne ce 10 mars à l'Institut du Monde Arabe. Cette émission a été préparée avec Corinne Amar, avec à la prise de son ce matin Cindy Le Grumelec. Et c'est une réalisation de Vincent Abouchard. On arrive à la parité, c'est fou. Et c'est pas uniquement parce que le 8 mars pointe son nez. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec France Culture.